ces expériences, celles qu'elle a faites, notamment auprès de la Banque mondiale, où ils envoyaient, et c'est toujours le cas d'ailleurs, des experts pour dire aux mecs sur place, ouais, non, mais vous démerdez comme des manches, nous, on sait comment on va faire, voilà le plan de tel savant, ingénieur, agronome, etc. Bon. Et en fait, très souvent, ça foire complètement leurs idées. Et du coup, ils reviennent sur les savoirs de ces communautés en question en disant, ah bah en fait, s'ils font ça depuis 800 ans, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Et c'est lié aussi à toute une expérimentation, à des échanges collectifs, etc., qui ont réussi à déterminer quelles étaient la meilleure manière de fonctionner, quoi, tout simplement, et de répondre à leurs besoins. Donc, par rapport à l'expertise, tu vois, dont on parlait aussi auparavant, je trouve que la question du fédéralisme aussi est très intéressante, parce qu'elle casse un petit peu les codes, y compris en termes d'efficacité. Moi, je pense que c'est la notion d'efficacité, moi, me fait pas du tout peur. Au contraire, moi, je pense que d'un certain point de vue, la manière de fonctionner anarchiste est beaucoup plus efficace.
Bien sûr, il y a beaucoup moins de gâchis. C'est évident. Mais toi, on a fait par vous, je crois qu'on va terminer. Mais juste un mot. Pas mal d'émissions autour du fonctionnement Zapatiste. Bon, je parle pas de tout l'aspect l'environnement hostile, etc. Donc, en gros, c'est un fédéralisme à trois niveaux qui fonctionne pas mal. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils arrivent à... Ça dépasse un peu le fait... Dans une même commune, par exemple, qui regroupe plusieurs villages, il peut y avoir des villages qui sont totsiles ou qui sont... C'est quand même un truc qui est avancé par rapport à avant, où chaque commune noté, je ne sais pas qu'il n'y avait pas des échanges, mais c'était relativement fermé. Bon, ils ont beaucoup chiadé l'aspect délégué, l'aspect décision, etc. Et bon, je crois qu'on peut dire 300 000-400 000. Bon, il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux. On a vraiment reçu plusieurs fois, notamment deux femmes qui travaillaient. Enfin, qui étaient dans ces organisations, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et ça, je dis pas du tout faut les calquer. Monique me fait, il faut couper les cheveux. Oui. Non, c'est pas ça. Bon, écoute, on va te remercier. Il y a encore beaucoup de choses à dire. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter. On a donné un éclairage principal, je sais pas, mais on a abordé quelques points. Donc, je rappelle le bouquin Le sauvage et le politique, Édouard Jourdain. Voilà, Monique, je te repasse la musique.
Oui, merci. Et on va se quitter avec Eric Frasiac, Mon anarchie. Au revoir.
Ces méchancetés dans tes sourires, tes bras qui m'empêchent de mourir, cette route que je ne savais pas. Un beau bordel organisé, qui se fout pas mal des défilés, c'est la solitude à mes pas. Du noir aux ongles de ma folie, mon anarchie. C'est de l'amour sans les barrières, la fraternité sans frontières, les nuits, les jours que je dévore. Une règle de vocabulaire aux conjugaisons libertaires pour mieux écrire merde à la mort. Le feu dans toutes mes envies, mon anarchie. Ne va pas poser des bombes, taguer des vitrines ou des tombes. Aux flics, elle préfère les clous. Mais au point levé des 100 voix, elle joint le sien pour le combat de l'utopie contre les coups. Parce que tout pouvoir est maudit, mon anarchie. Les drapeaux menteurs qui nous bernent, elle connaît trop les balivernes, rouge sillon de la patrie. Aux églises de sang et d'or, elle préfère le maigre décor des bars des copains de la nuit. Elle vous laisse à vos litanies, mon anarchie. La libre
liberté d'y croire encore, a comme amour en étendard. Elle a partout des camarades, de mots d'espoir et d'engueulades, et des couplets plein les guitares. Le chant de mon cœur sans parti, mon anarchie. Mais j'aurais beau te l'expliquer, te parler de paix, de respect, le mot fait peur dès qu'il est dit. Sans haine, sans violence et sans armes, ni Dieu ni maître dans ses larmes, rien d'autre qu'un hymne à la vie. Comme les trois mots sur tes mairies, mon anarchie.
C'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, troisième lundi du mois, la société dans tous ses états, Mohamed au micro. Aujourd'hui, il va être question dans notre émission de l'Ukraine, son histoire, à la fois récente mais aussi un peu plus ancienne et dans le temps. Et puis bien entendu, la situation aujourd'hui avec cette guerre qui dure depuis un peu plus d'un an maintenant. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Honoble. Bonjour Eric.
Bonjour Mohamed.
Alors, on va te présenter, tu vas te présenter à nos auditeurs, nous dire quels sont tes centres d'intérêt, tes travaux et tout ce qui s'ensuit.
Donc, Eric Honoble, je suis historien, de vieux auditeurs de Radio Libertaire m'ont peut-être entendu dans les années 90, alors que je commençais mes recherches en Ukraine sur les communes qui se sont créées à partir de la période de la guerre civile. Et donc, j'ai travaillé essentiellement sur toute la période 1917-1921, les années 20 et le début des années 30. Et j'enseigne à l'université de Genève.
Bon. Alors depuis, comme je disais en introduction, depuis février 2022, c'était le 24 février je crois, hein, la date du déclenchement de l'offensive de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, on parle beaucoup, quasiment quotidiennement, de l'Ukraine, de ce qui se passe actuellement, de cette guerre terrible qui oppose donc... Ces deux pays qui sont liés par une histoire très ancienne et sur laquelle tu vas nous apporter quelques éclairages. On est captivé d'une certaine manière par les opérations militaires au quotidien. On essaie de suivre autant qu'on peut et malgré la saturation qui au bout d'un moment finit par nous lasser, on suit l'actualité et les différentes lignes de front qui se déplacent, qui sont mouvantes, les villes qui sont prises, qui sont reprises. Et il manque quand même l'analyse politique, historique, sociale, pour essayer de comprendre un peu mieux ce conflit qui nous intéresse directement. Il se trouve aux portes de l'Europe, avec des risques de... Bon, un moment donné, on a même eu la crainte d'un conflit généralisé avec l'utilisation éventuelle de l'arme nucléaire. Alors, des craintes plus ou moins justifiées. Et puis, les implications des différentes puissances. J'aimerais que tu nous dises dans un premier temps quelques mots sur l'ancienneté des relations entre ces deux peuples, ukrainiens et russes. Sont-ils vraiment deux peuples ou est-ce que c'est un même peuple qui, avec des histoires différentes? Je crois que un de tes ouvrages s'intitule « Histoire partagée, mémoire divisée ». Mémoire divisée, voilà, merci.
Alors, le problème, c'est comment définir un peuple. Voilà, si on le définit par une langue, ben, en fait, les langues, que ce soit le russe ou l'ukrainien, c'est des langues qui sont codifiées depuis le milieu du 18e siècle pour le russe et le début du 19e pour l'ukrainien. On va pas partir dans des définitions ethniques ou raciales des peuples. On va être bien d'accord là-dessus que c'est pas un bon critère. Donc voilà, le problème c'est que les nations et les peuples au sens de constitutif de nations, c'est des notions extrêmement récentes qui ont 250 ans à peu près, et donc qui projettent rétrospectivement leur vision actuelle sur une histoire très longue. Et donc alors, en effet, Kiev, qui est aujourd'hui la capitale de l'Ukraine indépendante, a été au Moyen-Âge, autour du Xe siècle, la capitale d'un des plus grands états d'Europe qui s'appelait la Russie. Il y avait même une fille de la dynastie des princes de Kiev qui avait épousé un des premiers rois capétiens entre guillemets français. Donc évidemment, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, on a envie de se réclamer de cette histoire prestigieuse, mais c'est à peu près comme si aujourd'hui on était en train de s'empailler entre Français et Allemands pour savoir si la barbe fleurie de Charlemagne était plutôt germanique ou franchouillarde. Voilà, c'est une vision purement rétrospective. Il y a eu un État médiéval qui s'appelait la Russie. Aujourd'hui, il y a la Russie et il y a l'Ukraine, mais c'est trois entités totalement différentes et il n'y a pas de relation unique, univoque entre ces deux périodes-là.
Mais de chaque côté, on joue au niveau des propagandes, au niveau de l'histoire dite officielle, on joue de ce passé à son profit.
Tout à fait, oui. Et clairement, comme l'État russe s'est construit à partir, on va dire, de l'époque d'Ivan le Terrible, en s'étendant de la petite Moscovie, d'abord vers l'Est et puis ensuite vers l'Ouest, le fait de se revendiquer de la Russie, ça a été un élément important dans la construction de l'État russe.
C'est quelle époque, excuse-moi, Ivan le Terrible ?
Ça, c'est la fin du XVIe siècle.
D'accord.
Et par exemple, Ivan le Terrible, alors non seulement il se revendique grand prince de la Russie, qui n'existe plus au moment où lui prend le pouvoir, mais c'est aussi lui le premier à se dire tsar. Mais en fait, tsar, c'est la forme locale du mot César. Oui. Donc du coup, Ivan le Terrible se revendique à la fois comme successeur des empereurs romains et byzantins. Mais évidemment, on est dans de l'affichage, on peut dire, pour employer des termes modernes, qu'on est dans de la propagande. Et les Ukrainiens, c'est beaucoup plus récent parce que le mouvement national ukrainien, alors déjà les Ukrainiens n'ont d'État constitué et stable que depuis 1991.
La chute de l'Union soviétique, oui.
Alors il y a eu proclamation d'une éphémère République populaire d'Ukraine en 1917-1918, mais justement, faute d'État, le mouvement national ukrainien a construit un discours sur l'histoire à partir, on va dire, du milieu du 19e siècle, où eux aussi essayaient de montrer que leurs origines venaient de la Russie et d'établir une continuité entre cette Russe du Moyen-Âge, les Cosaques du 17e siècle, jusqu'à leur mouvement national et à leur revendication de création d'un État au 20e siècle. Donc on a vraiment deux discours historiques. D'un côté, le discours impérial russe qui veut faire remonter cet État bien avant la petite Moscovie, et puis de l'autre côté, le mouvement national ukrainien qui essaye de justifier sa revendication de création d'un État indépendant.
On va sauter quelques siècles, et puis on va pointer notre focale, si tu veux bien, sur la période donc, que tu connais bien, celle de 17-21, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, alors, 1917 bien sûr, hein, la révolution russe, mais qu'est-ce que ça entraîne dans la périphérie, en particulier en Ukraine.
Alors tu dis la révolution russe, aujourd'hui en Ukraine, très officiellement, on ne doit parler que de révolution ukrainienne.
D'accord.
Cette période-là. Alors ce qui est évidemment une réécriture de l'histoire, parce que pourquoi parler quand même de la révolution russe pour 1917? Parce qu'en 1917, c'est l'Empire russe qui est touché par une vague révolutionnaire, et une vague révolutionnaire qui s'exprime un peu dans toutes les dimensions, c'est-à-dire que bon, bah, ici j'apprendrai à personne qu'il y a une dimension sociale avec lutte des ouvriers contre les patrons, lutte des paysans contre les grands propriétaires. Il y a une dimension politique au sens lutte contre l'État et justement avec des institutions révolutionnaires telles que les soviets et plein d'autres comités qui se créent. Mais à côté de ça, il y a aussi une lutte contre l'oppression nationale, sachant que l'Empire tsar comprenait 130 nationalités différentes avant 1917, mais que, et c'est un terme qu'on trouvait dans la presse socialiste et révolutionnaire européenne avant 1917, cet empire tsariste, c'était une véritable prison des peuples. Et donc, il y a eu une volonté d'émancipation quasiment dans toutes les parties de l'Empire, dont l'Ukraine, et c'est un peu à ce moment-là que la revendication nationale a pris vraiment du corps, parce qu'auparavant, c'était vraiment l'affaire de cercles d'intellectuels qui n'avaient pas forcément beaucoup d'implantation dans la population, et ça commence à prendre vraiment de l'importance dans cette année 1917, avec donc un mouvement national très composite, c'est-à-dire avec des éléments très très marqués à droite, mais qui à l'époque sont assez marginaux. Et on va dire que le centre de gravité du mouvement national ukrainien à l'époque est marqué à gauche, c'est-à-dire que les deux grandes figures de l'époque, c'est l'historien Mikhailo Rouchevski, qui à l'époque se dit socialiste révolutionnaire, et Simon Pietloura, qui se dit social-démocrate, qui dans les termes de l'époque voulait dire marxiste.
Mais en même temps, il se passe des choses. 1917, c'est aussi, on est en pleine guerre mondiale, et la Russie se bat contre l'Allemagne.
Alors, la Russie se bat contre l'Allemagne, elle se bat aussi contre l'Empire austro-hongrois, ouais. Alors même qu'il y a une partie de l'Ukraine actuelle qui fait partie de l'Empire austro-hongrois. Ouais. C'est-à-dire que toute la région de Lviv, à l'ouest, donc historiquement c'est une région qu'on appelle la Galicie, est une composante de l'Empire austro-hongrois depuis la fin du XVIIIe siècle et le partage de la Pologne entre les grandes puissances d'Europe de l'Est. Et du coup, y compris, il faut bien comprendre que cette guerre de 1914-1918 ou 1917, c'est une guerre fratricide pour les Ukrainiens parce qu'il y a des Ukrainiens des deux côtés du front.
Ouais.
Et précision qui me semble importante vu d'aujourd'hui, c'est que du côté austro-hongrois, ils avaient accepté la constitution d'unité ukrainienne au sein de l'armée austro-hongroise, dont faisait partie d'ailleurs un des héritiers des Habsbourg, Wilhelm de Habsbourg, alors qui du coup portait une chemise brodée ukrainienne. Et c'est l'historien Timothy Snyder qui a fait une petite biographie, qui est une bonne lecture de vacances, sur lui, où il l'appelle le prince rouge, parce qu'il avait des idées avancées pour l'époque. Mais en même temps, sur le fond, ça veut dire que ces Ukrainiens Italiens qui combattaient sous l'uniforme austro-hongrois, mais avec une cocarde bleue et jaune, étaient totalement instrumentalisés par l'Empire, qui essayait de s'en servir pour se présenter comme le défenseur des nationalités opprimées face au tsarisme. Au même moment où en France, on vendait la guerre en disant c'est la guerre de la République et de la démocratie contre l'impérialisme allemand, etc. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a toujours une instrumentalisation et que dans le cas ukrainien, elle a été très forte dès cette époque-là.
Mais alors au moment de la prise, de la chute de l'Empire russe avec l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, il va y avoir un traité de paix qui va être signé. Quelle va être la position de l'Ukraine à ce moment-là?
Alors, la chute de l'Empire tsariste, c'est au début de l'année 1917. Et donc, et la prise du pouvoir par les bolcheviks, c'est en octobre. Oui. Donc, il y a toute une période où, justement, se développent les soviets, mais aussi tout un tas de partis, dont le parti bolchevique, mais aussi dont ce mouvement national ukrainien dont je parlais, qui se dote d'un organisme qui veut être représentatif, qui s'appelle la Rada, donc le Conseil central ukrainien. Et en fait, au début, cette Rada demande juste l'autonomie au sein d'une république russe qui est en train d'être construite. Et la première déclaration d'indépendance, en fait, c'est une réponse à la prise du pouvoir par les bolcheviks, parce que grosso modo, tout socialiste qu'il se disait, les dirigeants nationalistes ukrainiens ne se voyaient pas faire un bout de chemin avec des rouges. Ils voulaient bien faire un bout de chemin avec des Kerensky ou des démocrates bourgeois russes.
Les mencheviks, en gros.
Voilà, mais surtout pas avec des rouges. Et donc, c'est là qu'il y a une première déclaration d'indépendance, redoublée en janvier 1918, justement au moment où les bolcheviks commencent les négociations avec l'Allemagne pour la paix. Et en fait, à ce moment-là, la direction ukrainienne, qui s'est donc proclamée République populaire d'Ukraine, va couper l'herbe sous le pied des bolcheviks en signant un traité de paix avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en février 1918, alors que les accords définitifs de Brest-Litovsk avec les bolcheviks sont fin mars ou début avril. Et donc, pourquoi ce mouvement-là? Ben, grâce à ça, la direction ukrainienne, la Rada ukrainienne, faisait reconnaître son indépendance par un pays tiers. Et c'est comme ça qu'il y a eu quelques cartes qui ont été publiées en 1918, où on voit une république populaire d'Ukraine, mais dans des frontières qui, déjà à l'époque, étaient très largement théoriques.
Voilà, donc une histoire vraiment bien compliquée. Et alors, une fois que cette paix est signée à la fois par les Ukrainiens et les bolcheviks de l'autre, il va y avoir tout un mouvement de révolutionnaires qui va se mettre en place. Et comment donc l'Ukraine, dont on voit déjà à l'époque une tendance un peu centrifuge, comment les Ukrainiens vont-ils s'inscrire dans ce mouvement révolutionnaire qui va conduire entre autres à la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre 17? Comment ça va se passer et comment se mettent en place à ce moment-là toutes les structures qui plus tard vont donner l'Union soviétique?
Alors, de fait, ce qui se passe à partir du début de 1918, c'est-à-dire le traité de paix ukraino-germano-austro-hongrois, puis le traité de paix soviéto-germano-austro-hongrois, c'est le début d'une période de chaos en Ukraine qui va durer jusqu'en 1920. Parce que les Allemands sont très content d'avoir pris l'Ukraine sous protectorat et très rapidement ils l'occupent. Donc non pas en vertu du traité avec les bolcheviks, contrairement aux paroles de la Makhnovchina, mais bien en vertu d'un traité conclu avec les dirigeants ukrainiens. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est piller l'Ukraine pour nourrir l'Allemagne qui est en limite en situation de famine et soutenir le front de l'Ouest contre les Français, les Anglais et les Américains. Et du coup, ça veut dire que ces dirigeants nationaux de gauche ukrainien sont débarrassés débarqués par un coup d'État et on trouve une baderne d'anciens généraux tsaristes d'origine cosaque pour fonder un État ukrainien très conservateur. Et à l'effondrement des empires centraux, donc novembre 1918, le fameux 11 novembre, bah, ce régime fantoche en Ukraine s'effondre. Et à partir de ce moment-là, bah, vous avez l'armée rouge qui arrive de l'Est, les troupes nationalistes ukrainiennes qui se reconstituent à l'Ouest et l'armée insurrectionnelle de Makhno qui gonfle au sud du pays. Et en fait, dans les trois cas, ces trois forces trouvent des appuis dans une paysannerie qui a récupéré des armes dans cette ambiance de chaos total. Et donc, ben, les paysans servent un peu de juge de paix entre ces différentes forces, à trouver que les nationalistes ukrainiens ne sont pas assez radicaux sur le plan du partage des terres, à trouver que les bolcheviques sont trop dirigistes et trop collectivistes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à une certaine époque, la Makhnovchina prend énormément d'ampleur, dans la mesure où à la fois c'est un mouvement contre le pouvoir central, et ça, dans les villages, ça plaît beaucoup, donc pas forcément par adhésion à l'anarchisme, mais parce que vraiment, il y a une espèce de volonté d'émancipation des villages, de la tutelle des villes, mais au sens presque, comment dire, millénaire du terme, c'est-à-dire on veut plus être dirigé par les gens de la ville, et qu'en même temps, il faut le savoir, la Makhnovchina, à l'époque, a une politique modérée au niveau agraire, c'est-à-dire que ils veulent le partage des terres, mais ils ne veulent pas la mise en place, justement, de communes comme celles sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, il y a quelques communes makhnovistes, mais très, très peu nombreuses. Il y en a beaucoup plus du côté bolchevique. Mais c'est justement ce collectivisme qui va braquer l'essentiel de la paysannerie contre les bolcheviques. Donc, voilà les éléments de ce qui crée une situation de lutte avec des armées constituées, des bandes irrégulières qui vont ensanglanter l'Ukraine jusqu'au moins au milieu de l'année 1920.
Tu as parlé à l'instant de communes. Alors, j'ai pu voir comme ça assez brièvement certains des extraits des travaux que tu as menés là-dessus. J'étais très surpris de voir qu'il y avait des communes qui prenaient le nom de communes de Paris.
Oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'est comme ça que, à Izium, alors qu'il était une ville, je devais être une des rares personnes à la connaître en France jusqu'en septembre dernier, parce que c'est un des endroits qui a été repris par l'armée ukrainienne au mois de septembre. Donc moi, je suis tombé sur un fonds d'archives où autour d'Izium, au début de 1919, donc au moment de la deuxième offensive des Rouges, il y a eu 33 communes qui se sont créées. Et donc, il y en a une qui prend le nom de commune de Paris. Et mais sauf qu'à l'époque, c'est super bien vu. Donc du coup, il y en a une deuxième qui veut porter le même nom et qui va s'appeler Deuxième Commune de Paris, sauf que dans leur documentation, ils écrivent Deuxième Commune de Paris pas au sens où il y a déjà une commune paysanne qui s'appelle Commune de Paris dans la région, mais au sens où il y avait la Commune de Paris de 1871 et eux, c'est la Deuxième Commune de Paris. Mais il y a aussi une commune Karl Liebknecht, une commune Rosa Luxembourg. Voilà, c'est-à-dire que sachant que Liebknecht et Rosa Luxembourg ont été assassinés quelques semaines plus tôt. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un moment où on a des gens de couches extrêmement pauvres dans les villages, et sachant que les prolétaires ruraux étaient encore beaucoup plus bas dans l'échelle sociale que les ouvriers d'industrie, dans la mesure où ils n'étaient même pas reconnus par le reste du village comme des gens à part entière. Et bien donc ces prolétaires ruraux, ils se saisissent de tout ce qui passe, que ce soit l'actualité avec la Révolution allemande ou les bribes d'histoire qui leur arrivent comme la Commune de Paris.
Alors ça c'est un moment assez assez extraordinaire quand on le découvre, parce que ça c'est une histoire qu'on connaît pas ou très très mal. La grande figure dont on parle surtout dans le milieu libertaire, c'est bien sûr celle de Makhno, et puis de cette épopée entre guillemets peut-être, mais de cette épopée makhnoviste. l'arrière-plan, finalement, il est un peu gommé, et on voit qu'il y a une ébullition, une effervescence révolutionnaire dans un moment de bouleversement total. Enfin, les États s'effondrent, les empires se disparaissent, il n'y a pas encore de nouvelle entité constituée qui puisse remplacer ou se substituer à l'ancien ordre. Et là-dedans va apparaître énormément de bouillonnement, alors dans les villes et dans les campagnes. C'est ça aussi qui est vraiment extraordinaire. Est-ce que c'est une spécificité propre à l'Ukraine? Est-ce qu'on peut retrouver ça dans d'autres endroits de Russie à ce moment-là?
Alors, je pense qu'on pourrait le retrouver dans d'autres endroits de l'ex-empire russe. La spécificité de l'Ukraine, c'est que la situation y est restée instable beaucoup plus longtemps. Et que du coup, alors, si on veut le voir du côté positif, le jeu a été beaucoup plus ouvert avec les anarchistes de Makhno, les bolcheviks, les nationalistes ukrainiens, mais sachant que les nationalistes ukrainiens, il y avait pas mal de dégradés depuis des forces conservatrices jusqu'à des forces de gauche, plus les interventions étrangères, on a trouvé, donc, alors des Allemands, j'en ai déjà parlé, mais il faut quand même se souvenir aussi du débarquement des troupes françaises sur la mer Noire avec la révolte des marins de la mer Noire, avec Marty et Tillon. Et puis des tas de chefs autoproclamés. Alors, sachant que de ce côté-là, Makhno, il est justement assez exemplaire. C'est-à-dire que Makhno, c'est un militant... c'est un jeune de milieu populaire qui s'est radicalisé au moment de la première tentative de révolution en 1905, qui a fait de la prison, qui a été formé politiquement en prison par un de ses compagnons de détention, Archinov, et qui en 1917 donc est libéré de prison où il a passé plus de 5 ou 7 ans, retourne dans son bourg natal Gouliaï-Polié. Et en quelques semaines, il cumule les fonctions de, je crois que c'est président du syndicat des meuniers, président du soviet, président du comité agraire qui est chargé de diviser les terres des grands propriétaires, responsable du mouvement anarchiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait représentatif de ce qui s'est passé en 1917, où les militants qui avaient un petit peu de bouteille et puis un petit peu de formation politique se sont retrouvés à avoir 15 casquettes, à tout diriger de front. Et du coup, ensuite, ça dépendait localement beaucoup de l'orientation des militants. Et dans le cas de Makhno, son engagement anarchiste, et qui était un engagement profond, mais en plus réfléchi, lui a permis de structurer un mouvement qui restait quand même focalisé sur sa personne et très officiellement dans un mouvement qui se réclamait des idéaux libertaire, lui on l'appelait le petit père Makhno, Batko Makhno.
Ouais. Avant de commencer notre émission, on discutait justement de la figure de Makhno, de ce qu'elle a pu représenter et de ce qu'elle représenterait encore peut-être aujourd'hui en Ukraine. Qu'est-ce qu'il en est
Alors, aujourd'hui, elle représente plus grand-chose. Par contre, dans les années 90 et aller jusqu'à la milieu ou la fin des années 2000, il y a eu un véritable engouement pour Makhno, alors qui correspondait à deux choses. D'une part, il y avait globalement le fait que tout ce qui avait été caché à l'époque soviétique ou travesti, c'est ressorti comme un ressort. Du coup, il y a eu un intérêt spécifique en Ukraine pour Makhno, qui était, entre guillemets, une gloire locale. Alors, sachant que cet intérêt, il a nourri, pour une part, un mouvement libertaire post-soviétique, mais il a aussi nourri un intérêt, des fois purement commercial. Par exemple, je sais qu'à Kharkov, il y avait un café qui existait à l'époque soviétique qu'on appelait la mitrailleuse, alors parce qu'en russe, le terme pour désigner une machine à expresso et une mitrailleuse, c'est le même, c'est avtomat. Et du coup, ce café a été recréé dans les années 2000 en mode mitrailleuse macnoviste, c'est-à-dire que l'intérieur, en fait, les endroits où s'asseyaient les gens, c'était des tachans qui, les petites carrioles macnovistes, donc ça faisait une place pour quatre, avec des mitrailleuses factices et des serveurs et serveuses habillés en cosaques, voilà. Donc il y avait cet intérêt, y compris un graphiste assez talentueux qui faisait des, comment dire, des espèces d'illustrations avec des motifs floraux et puis la tête de Macno apparaissant là-dedans avec marqué en ukrainien la liberté ou la mort. C'était tellement populaire justement dans une espèce de culture de masse qu'il y a eu toute une période où un festival de rock a été tenu à Goulay-Poulié, donc le bourg d'origine de Macno. Ça se tenait à l'été, assez logiquement, vu le climat. Mais sauf que le nom du festival de rock, c'était le jour de l'indépendance avec Nestor Macno. Donc l'indépendance, c'est le 24 août, c'est la fête nationale. Et donc on mettait ensemble la fête nationale ukrainienne et la figure de Nestor Macno. Et donc il y a eu toute une période où il y avait cette espèce d'ambiguïté. Et par exemple, il y a un écrivain ukrainien qui a été en partie traduit en français, qui s'appelle Sergei Jadan ou Sergei Jadan, qui est quelqu'un originaire du Donbass et puis qui a un côté un peu punk. Voilà, bon, il n'est pas tout jeune, il a une bonne cinquantaine d'années maintenant. Mais justement, lui, il a fait partie un peu de cette culture où il y avait des gens qui cherchaient des références un peu radicales au sens qu'on a à l'Ouest, ce qui correspondait pas forcément à grand chose là-bas. Mais voilà, c'est comme ça qu'il y a pu y avoir la rencontre entre un certain nationalisme et la figure de Macno. Mais depuis, on va dire, le Maïdan, c'est beaucoup redescendu et c'est des figures centristes, droitières et extrêmes droitières qui ont pris le pas sur Macno.
Oui, on va y revenir dans la suite de l'émission.
Macnovtchina, Macnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Macnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Macnovtchina les avait jetés au vent. Macnovtchina, Macnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entré en Ukraine en chantant, mais bientôt la Macnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Macnovtchina l'a dispersée dans le vent. Macnovtchina, Macnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulait chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Macnovtchina, Macnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
La Makhnovtchina d'Étienne Rodagil, interprétée par Serge Ujeroyo. Toujours Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. Aujourd'hui, avec Éric Connoble, nous revenons sur l'Ukraine. Dans une première partie, on a essayé de dresser un petit peu le tableau avec surtout la période 1917-1921, avec l'évocation, bien entendu, de la figure de Makhno et de son engagement dans cette période extrêmement troublée de l'histoire ukrainienne. Un autre moment très fort de l'histoire de l'Ukraine qui va survenir un peu plus tard que ce dont on a parlé dans la première partie, c'est un événement qu'on appelle Holodomor. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est que cet événement, qu'est-ce que c'est que cette période, quels en sont les tenants et aboutissants et quelles en sont à la fois les conséquences immédiates mais aussi les échos qu'on peut en avoir aujourd'hui.
Alors, le Holodomor, donc c'est un mot en ukrainien, Holod c'est la faim et Moriti c'est tuer. Donc c'est le meurtre par la faim, ça désigne la grande famine de 1932-1933 qui a tué au bas mot 3 millions de personnes. C'est-à-dire globalement c'est 15% de la population ukrainienne qui meurt en l'espace de moins d'un an.
Alors c'est une catastrophe naturelle ?
Alors pas du tout, voilà. C'est le résultat. Alors, faut quand même un peu revenir en arrière. On a parlé de la révolution. Les bolcheviks ont le pouvoir dans l'essentiel de l'ex-empire tsariste. Et dans les années 20, il y a un moment qui est quand même très important et qui aujourd'hui n'est rappelé guère que par Vladimir Poutine pour dire toute sa détestation de ça. C'est la politique nationale suivie qu'on appelle la politique d'enracinement ou d'indigénisation. Et qui, dans le cas ukrainien, se traduit par une ukrainisation. C'est-à-dire que ça va être ce qu'on appelle la renaissance ukrainienne, avec un grand nombre d'écrivains et d'artistes. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont connus à l'Ouest. Il y a le cinéaste Dovzhenko, qui est un petit peu connu. Allez, on fait toujours des comparaisons. Alors, on va dire que c'est un peu le Eisenstein ukrainien. Mais il y en a tout un tas d'autres. Et c'est une période où la langue ukrainienne devient la langue d'enseignement. Donc il y a vraiment un espoir à cette époque-là que le régime soviétique offre à l'expression nationale ukrainienne des opportunités qu'elle n'avait pas avant. Et donc il faut savoir que, y compris dans les Ukrainiens qui vivent en dehors de l'Union soviétique, donc toujours dans cette même région de Lviv, qui entre les deux guerres est passée du côté polonais, il y a des gens qui tournent leurs yeux vers, non pas vers les nationalistes d'extrême droite, mais vers l'Ukraine soviétique, en pensant que c'est là que se construit une véritable nation ukrainienne. Alors, sauf que ça marche jusqu'à la fin des années 20, et sous Staline, donc il y a successivement la collectivisation forcée à partir du début de 1930, qui rencontre une opposition particulièrement en Ukraine, c'est-à-dire que l'endroit du RSS où il y a eu le plus de révoltes contre la collectivisation, c'est en Ukraine. Alors des révoltes, la plupart du temps, c'est quand les agronomes ou les géomètres envoyés par l'État arrivent, les femmes leur mettent la misère. Et ça, c'était des vieilles façons d'opposition qui existaient à l'époque tsariste déjà, avec l'idée qu'il n'y aurait pas de répression contre les femmes. Sauf que, là, l'État stalinien est déjà suffisamment structuré pour mettre fin à ces révoltes. Et arrivé en 1932, les demandes de l'État en blé pour nourrir les villes, parce que parallèlement à la collectivisation, il y avait l'industrialisation. Donc les villes ont énormément augmenté, et dans le cas de l'Ukraine, l'industrialisation, il y a des usines gigantesques qui sont sorties de terre, où il y a un an, entre le moment où on a posé la première pierre de l'usine, et le moment où le premier tracteur est sorti. C'est aussi dans ces années-là qu'en Ukraine, on construit l'immense barrage hydroélectrique sur le Dniepr, le Dniepro-Guess, qui est un chantier gigantesque. Donc il faut nourrir tous ces gens-là. Donc l'État augmente les prélèvements sur les récoltes, ne laissant que, alors d'abord, le minimum aux paysans des kolkhoz, c'est-à-dire les fermes collectivisées. Et arrivé en 1932, comme les prélèvements augmentent toujours plus, les paysans se retrouvent non seulement à donner tout ce qu'ils avaient, mais à taper aussi dans les réserves de semis pour l'année suivante. Et là, on passe à la famine, c'est-à-dire que non seulement les paysans vont connaître une disette avant la prochaine récolte, sauf qu'il n'y aura pas de prochaine récolte. Mmh. Et c'est ça la différence entre des disettes qui existaient à l'époque tsariste ou qui avaient commencé à réapparaître en 1931 et la famine, c'est qu'il n'y a plus rien. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette famine, elle touche toutes les régions à blé du RSS. C'est-à-dire que c'est un grand arc au sud de l'URSS qui part du nord du Kazakhstan, tout le bassin de la Volga, le Kouban, c'est-à-dire au nord du Caucase, ouais. Et l'Ukraine. Et donc, il n'y a pas que l'Ukraine qui subit la famine, y compris la région qui, en proportion de la population, connaît la plus forte mortalité, c'est plutôt le Kazakhstan. Par contre, il y a bien une spécificité en Ukraine, c'est le traitement politique et policier de la famine, à savoir que pour Staline et ses proches, et là-dessus on a des correspondances qui ont été exhumées à partir des archives à partir de 91, ils considèrent que l'Ukraine c'est quelque chose de stratégiquement important parce qu'ils sont persuadés qu'il risque d'y avoir une tentative de déstabilisation par la Pologne. La Pologne qui serait l'échelon avancé d'une attaque franco-anglaise contre l'URSS. Ça, c'est des idées qui traînent dans la direction soviétique depuis la fin des années 20. Et donc, il faut absolument empêcher la déstabilisation de l'Ukraine. Et pour ça, on envoie des forces de l'ordre pour empêcher les affamés de sortir de leur village. Ce qui les condamne à la mort. Ouais. Alors que dans d'autres régions du RSS, en fait, les affamés, on les laisse quitter les zones de famine, et donc ils vont jusqu'à la ville la plus proche, alors qui peut être des fois à des centaines de kilomètres. Mais disons que au moins les plus forts physiquement s'en sortent. Alors que dans le cas de l'Ukraine, les gens sont maintenus sur place jusqu'à ce que mort s'en suive.
Donc un bilan extrêmement lourd hein, qui pèse donc sur à la fois sur la population de l'époque mais aussi dans les mémoires.
Alors dans les mémoires même si donc à l'époque soviétique il y a eu un tabou absolu là-dessus qui a duré jusqu'à la perestroïka et
Les années 4 le milieu des années 80
87 et les années suivantes et il faut savoir que Gorbatchev, donc le secrétaire général du Parti communiste, qui était lui-même originaire d'une des régions touchées par la famine, le Kouban, et qui était d'une famille, il avait un de ses parents russe et l'autre ukrainien. Lui-même a affirmé dans une interview qu'il a découvert l'existence de la famine une fois qu'il était devenu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est-à-dire que le tabou était préservé non seulement vis-à-vis de la population, mais y compris dans la nomenclatura elle-même. Et donc c'est quelque chose qui est découvert dans les archives à partir de la perestroïka, mais qui était quand même connu. Alors il faut savoir que des opposants de gauche, anarchistes, socialistes, trotskistes en avaient parlé dès les années 30, mais aussi dans le mouvement nationaliste. Et du coup, le terme de Holodomor, c'est pas du tout un terme d'époque, c'est un terme qui a été forgé dans les années 70 dans la diaspora ukrainienne d'Amérique du Nord. Qui, elle, était idéologiquement sous l'influence du mouvement nationaliste. Et en fait, ce terme de Holodomor, il est forgé après la diffusion aux États-Unis et dans un certain nombre de pays européens du feuilleton Holocauste, sur l'extermination des Juifs par les nazis. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment la volonté de faire reconnaître la famine en Ukraine comme quelque chose qui soit à l'égal de l'extermination des Juifs par les nazis. Et ça, ça va rentrer dans les plans du président Ronald Reagan, donc président américain, une espèce de Trump avant Trump, au tournant des années 70-80. Qui lui relance la guerre froide contre l'Union soviétique, qui désigne comme étant l'empire du mal. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a la première reconnaissance par une commission du Sénat américain du Holodomor, donc terme tout récent, comme étant un génocide. Et donc tout ça s'est introduit en Ukraine au moment de l'ébranlement puis de l'effondrement de l'Union soviétique, et ça va être un peu le premier pilier de la construction d'une mémoire historique de l'Ukraine indépendante, c'est-à-dire quelque chose où, en mettant en avant le statut de victime de l'Ukraine et donc la figure d'enfants affamés et toutes choses qui sont vraies, je veux dire, il y a même eu des cas de cannibalisme à l'époque, ça a été une véritable horreur. Mais globalement, l'idée, c'était de trouver quelque chose qui soit consensuel. Et donc, il y a un historien américain qui, comme ça, a parlé de la lacrymogénèse de la nation ukrainienne, c'est-à-dire le fait de créer une conscience commune autour de la déploration de la famine.
Tu me disais aussi en aparté, hors micro, que la France aussi a reconnu cette Holodomor.
Alors, il y a eu, dans les secteurs nationalistes, en Ukraine même et dans la diaspora, dès le début, dans le cas de la diaspora, la volonté de faire reconnaître ça à l'étranger. Donc, je parlais de cette commission du Sénat américain qui, à la fin des années 70 ou au début des années 80, parle de génocide. Et en fait, en Ukraine même, le Holodomor a été utilisé, en particulier, par exemple, par des présidents qui voulaient se faire réélire face à un candidat communiste. Il faut savoir que les communistes ukrainiens avaient encore plus de 20% des voix à la fin des années 90. Et donc le Holodomor, c'était une façon de dire, si vous votez communiste, ça va être à nouveau ces horreurs qui vont revenir. Et donc, à partir de la Révolution Orange, il y a vraiment une politique des chefs d'État ukrainiens, disons, de tendance nationaliste, pour, comment dire, mesurer le soutien des pays tiers à l'Ukraine par la reconnaissance du Holodomor comme génocide. Et donc il y a eu quelques décisions, le Parlement européen avait voté dans ce sens-là il y a quelques années, mais là clairement avec la guerre, le fait de faire voter des résolutions par les parlements reconnaissant le Holodomor comme génocide, ça sert un peu de démonstration de solidarité avec l'Ukraine, mais ça a été voté récemment en Allemagne et en France, et c'est quand même assez intéressant de noter que ces deux pays, dont les chefs d'État, le chancelier Scholz et le président Macron, sont considérés comme pas les plus chauds dans l'aide militaire à l'Ukraine. Donc c'est un peu, on vous envoie pas des armes, mais notre Parlement vote la reconnaissance du génocide, on va dire que ça fait un équilibre.
Tout à l'heure, on a parlé de la figure de Macno et de la façon dont elle avait été utilisée, puis remise un petit peu de côté. D'autres figures historiques sont en Paris. Il y en a une dont on a beaucoup parlé, qu'on connaissait très peu ou très mal, celle de Stepan Bandera. Qui est-il et quelle est son importance dans l'histoire de l'Ukraine et quels en sont aujourd'hui encore les échos ou les réminiscences?
Alors, ils sont malheureusement de plus en plus importants. Stepan Bandera, c'est un militant de l'extrême droite nationaliste en Galicie, donc toujours cette région de Lviv, qui s'affirme à la fin des années 20. Donc le mouvement nationaliste ukrainien n'a pas réussi réussi à mettre en place un État ukrainien indépendant pendant la séquence 1917-1921. Et du coup, ça veut dire que dans les années 20, ce mouvement nationaliste a tendance à se droitiser. C'est-à-dire que, grosso modo, les socialistes, avec beaucoup de guillemets, n'ont pas été capables de nous construire un État indépendant. Ça veut dire que c'est le socialisme qui est responsable. La preuve, d'ailleurs, c'est le bolchevisme, Oni, etc., etc. Donc, il y a une radicalisation à droite du mouvement nationaliste ukrainien. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Ukrainiens hors d'Union soviétique sont nationalistes, mais ça veut dire que la partie, je dirais, active politiquement en Galicie dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment les mouvements d'extrême droite nationaliste qui se revendiquent assez ouvertement de l'expérience mussolinienne, un État fort pour une nation forte, et qui, après la prise du pouvoir par Hitler, vont aussi manifester de la sympathie pour Hitler. Et Bandera, dans le mouvement nationaliste, il s'affirme comme un activiste, il va organiser des attentats terroristes contre les autorités polonaises, des représentants diplomatiques soviétiques, mais aussi contre un directeur d'école ukrainien considéré comme collabo des autorités polonaises, qui fait assassiner, donc au début des années 30, et lui-même va se poser en chef, mais c'est-à-dire, c'est provodnik, c'est la traduction en ukrainien de Führer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de construire un mouvement nationaliste sur le modèle fasciste et nazi. Et donc Bandera fait de la prison en Pologne pour son organisation d'attentats. Il est libéré par les Allemands au moment de l'invasion allemande en septembre 1939. À partir de là, il collabore avec l'armée allemande pour préparer l'attaque de l'URSS, donc qui commence le 22 juin 1941. Alors, ses partisans proclament un État ukrainien indépendant à Lviv très peu de temps après l'arrivée des troupes allemandes et très peu de temps après les premiers massacres de juifs qui, à l'époque, ne sont pas perpétrés par les nazis eux-mêmes, mais justement par la population locale encadrée par des militants nationalistes. Ça, c'est le pogrom de Lviv qui a lieu fin juin, début juillet 1941, c'est-à-dire dans les 15 premiers jours de la guerre. Donc, proclamation d'une Ukraine indépendante, sauf que c'est pas du tout dans les plans des nazis. Et donc, à partir de ce moment-là, Bandera est emprisonné par les nazis dans un camp de concentration, mais dans le quartier VIP. C'est-à-dire là où on met les gens qu'il faut garder en vie pour pouvoir éventuellement les réutiliser. Et pendant ce temps-là, ses partisans comprennent le message, c'est-à-dire qu'ils ne revendiquent plus un État ukrainien indépendant. Ils s'engagent massivement dans la police supplétive qui travaille pour les Allemands. Et donc, ça veut dire qu'ils vont sous l'étiquette allemande, c'est eux qui vont être les petites mains de l'extermination des juifs, c'est-à-dire que dans le schéma de l'extermination par les nazis, des sous-hommes comme les Ukrainiens ne doivent pas avoir l'honneur de massacrer des juifs. Par contre, cette police supplétive ukrainienne, c'est elle qui va chercher les juifs, qui les rassemble et qui les amène au lieu d'exécution, où là, c'est les Einsatzgruppen qui procèdent aux exécutions, donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle. Oui. Et en 42-43, quand les nazis subissent leur première défaite en URSS à Stalingrad, Bandera et ses partisans comprennent que les nazis, c'est plus le bon cheval. Et donc là, ils vont faire un double virage sur l'aile. Premièrement, donner la consigne à leurs partisans de quitter la police supplétive en gardant leurs armes et de fonder des maquis donc dans les zones occupées par les Allemands. Et c'est ce qu'on appelle l'armée insurrectionnelle ukrainienne, l'UPA. Et lisser leur discours pour dire nous défendons la liberté des peuples et essayer de trouver l'oreille des Occidentaux en essayant de dire nous on est les gentils, les soviétiques, vous êtes leurs alliés mais c'est pas les gentils. Il reste que même alors qu'il y a eu changement de discours, la première action menée par les partisans de Bandera qui ont constitué donc des maquis indépendants, c'est de s'en prendre aux Polonais ethniques qui vivent dans en Voligny, qui est une région à côté de la région de Lviv. Et donc, il y a comme ça, en 1943, au moins 60 000 Polonais ethniques qui étaient là depuis plusieurs siècles, les familles étaient là depuis plusieurs siècles, qui sont massacrés dans des conditions absolument affreuses par les nationalistes ukrainiens. Et le problème, c'est que aujourd'hui, alors, cette mémoire de Bandera a toujours été défendue dans l'extrême droite nationaliste, mais extrême droite nationaliste groupusculaire, alors qui pouvait être violente, avoir mis en place des organisations paramilitaires, etc., mais qui a toujours été totalement groupusculaire et qui, à chaque fois qu'ils se sont présentés aux élections, ont toujours pris des tôles. Le seul parti d'extrême droite qui ait jamais eu un bon score en Ukraine, c'était en 2012, le parti Svoboda, qui avant s'appelait le Parti Social National d'Ukraine. Mm-hmm. Voilà, tout le monde aura compris. Eux, ils sont montés à 10%, mais ça a été, comment dire,
l'apogée.
Voilà, et depuis, ils n'ont jamais dépassé les 2-3%. Il reste que, avec la guerre, la figure d'un Bandera comme combattant farouche et déterminé de l'indépendance de l'Ukraine contre le grand voisin de l'Est, elle est énormément remontée.
Oui. Oui, ça a beaucoup servi la propagande russe. Et puis aussi, là, on a parlé de cette fameuse brigade armée Azov, je crois.
Voilà, Azov, qui est donc issu d'un groupe d'extrême droite qui avait créé une unité d'autodéfense sur la place de l'indépendance, le fameux Maïdan, en 2013-2014. Et bataillon Azov, qui a comme symbole le Wolfhangel, le crochet à loup qu'on trouvait chez certaines unités SS, mais qu'ils ont retourné comme vu sur un miroir, ouais, en disant du coup que c'est plus du tout le crochet à loup des SS, mais les lettres IN pour idée de la nation.
Ouais. On reviendra dans la dernière partie de l'émission sur le Maïdan. Tu as évoqué là dans ce moment là l'antisémitisme. On ne peut pas ne pas parler. Je me souviens tout gamin d'avoir assisté à la projection du film L'Homme de Kiev, qui raconte cette histoire. Et puis, en plein milieu de L'Homme de Kiev, on a appris la mort de Pompidou.
Hein,
c'est un souvenir que les gens de notre génération ont gardé. Hein, on ne peut pas ne pas évoquer quand même cet aspect de l'histoire. Juste un petit mot.
Oui.
Makhno avait été accusé par Joseph Kessel dans son fameux livre « Makhno et sa juive » d'antisémitisme, ce qui s'est révélé complètement faux.
Oui, oui. Y compris là-dessus, maintenant, il y a eu des travaux d'historiens. Grosso modo, les pogroms de 1919, qui sont une horreur, hein, c'est quand même 100 000 juifs en Ukraine qui sont massacrés en 1919, c'est les plus grands massacres de juifs en Europe depuis le XVIIe siècle et avant l'extermination par les nazis. Mais sauf que là maintenant, on sait à peu près comment, etc. Et ce sont les troupes nationalistes ukrainiennes qui ont perpétré le plus de pogroms, suivies par les troupes contre-révolutionnaires blanches russes.
Denikin.
Et ensuite, l'armée rouge et l'armée de Makhno ont été responsables de pogroms. Mais sauf que dans les deux cas, il y avait une répression immédiate et systématique des fauteurs de pogrom qui étaient fusillés, ce qui fait que ça durait pas, alors que par contre, aussi bien dans les armées blanches que dans les armées nationalistes ukrainiennes, ils avaient trop besoin de leurs soldats et de leurs sous-officiers pour pouvoir prendre le risque de se les aliéner pour sauver des juifs. Ouais. Alors, pour ce qui est de l'antisémitisme, justement, alors il faut voir deux choses. C'est d'une part, les causes sociales de l'antisémitisme. Jusqu'au XXe siècle, le gros problème de l'Ukraine, mais plus généralement de toute l'Europe orientale et des Balkans, c'est qu'en fait, on a une structure de la société qui recoupe la structure ethnoculturelle. C'est-à-dire que globalement, avant 1917, sur le territoire de l'Ukraine, si vous êtes ukrainophone, vous êtes paysan. Et ça souffre quasiment pas d'exception, à part une petite couche intellectuelle. Si vous êtes russophone ou polonophone, vous êtes noble, bourgeois ou fonctionnaire. Et vous vivez en ville. Donc ça veut dire qu'il y a une coupure ville-campagne extrêmement dure, ce qui explique aussi d'ailleurs ce côté anti-État, anti-pouvoir central, anti-ville qui s'exprime dans la paysannerie à partir de 1917. Et puis les Juifs là-dedans, ils jouent le rôle, à cause de législation d'État, c'est ceux qui sont ni les uns ni les autres. Et entre autres, il faut savoir qu'aussi bien dans l'Empire tsariste que dans l'Empire austro-hongrois, les licences de distribution d'alcool et de tabac dans les campagnes étaient vendues prioritairement aux Juifs. C'est aussi pour ça que les Juifs se retrouvaient dans le rôle d'usurier, parce que dans des sociétés paysannes où on utilisait très peu d'argent, où l'essentiel se faisait encore sous forme d'échanges, les seuls qui avaient du numéraire chez eux, c'était justement ceux qui vendaient du tabac et de l'alcool. Et il y a un roman d'un romancier juif biélorusse soviétique des années 20 qui a été traduit en français, ça s'appelle Les Elminiens de Moïse Koulbak, où il y a une scène assez frappante comme ça qui se passe pendant le Shabbat, donc un samedi, où il y a un paysan biélorusse complètement saoul qui veut plus de vodka. Le problème, c'est que le marchand d'alcool juif, il est en train de faire Shabbat, donc il a fermé toutes les portes et fenêtres de son débit et il essaye de prier avec sa famille, avec le paysan qui est en train d'hurler dehors, qui commence à attaquer la porte à la hache en gueulant salope prix de youpin, tu vas me la filer ma vodka. Ça donne une idée du type de tension qu'il y avait. Sauf que ces tensions ont été instrumentalisées par l'État tsariste à partir de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que l'État tsariste...
Le protocole des sages de Sion.
Voilà. Et plus l'État tsariste était contesté par les mouvements révolutionnaires de la Narodnaya Volia, la volonté du peuple, etc., plus il y a eu un resserrement. Et il faut savoir que non seulement il y a eu des pogroms autour de la révolution de 1905, dont celui qui est montré dans Potemkin d'Eisenstein, mais pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu toute une vague de pogroms organisée par l'armée tsariste et il a fallu plus d'un an avant que le haut état-major n'y mette fin. Et donc ça veut dire que ce schéma où on s'attaque aux juifs, mais c'est rarement totalement spontané. La plupart du temps, c'est justement des officiers, des sous-officiers, des gens qui représentent une autorité, qui vont donner le signal. Et à partir de ce moment-là, et le signal, ça veut dire y compris qu'on peut piller les propriétés des juifs.
Je pense qu'il était vraiment très très important de souligner cet aspect pour bien comprendre l'histoire de l'Ukraine, de la Russie et de toute cette région. Merci en tout cas d'avoir bien expliqué cet aspect des choses.
Яблочко да соку спелого полюбила я. языка краснофлотского. Буржуй, глазик выколю. Подходи, буржуй, глазик выколю. Эх, яблочко, да не докатится, а буржуйская власть не воротится. А буржуйская власть не воротится. Эх, яблочко, да огородное, прижимай кулаков, все народное. Прижимай кулаков, все народное. Яблочко, да ты хрустальное, а квартира у нас коммунальная, а квартира у нас коммунальная.
On vient d'entendre le groupe Otavia Yo qui interprète une chanson populaire datant de l'époque révolutionnaire, une chanson donc populaire ukrainienne, Petite Pomme. Toujours sur Radio Libertaire, la voix son unimètre de la Fédération anarchiste, il s'agit aujourd'hui de traiter, pas tout, mais une bonne partie en tout cas de ce qui a trait à l'Ukraine, aujourd'hui très présente dans notre actualité, et pour ce fait nous sommes avec Éric Honoble. Nous avons, dans la deuxième partie de l'émission, parlé de l'Holodomor, de la figure, des figures de nationalistes ukrainiennes, et puis de l'antisémitisme historique. Dans l'histoire donc de l'Ukraine et de la Russie. Un événement beaucoup plus proche de nous, là on se rapproche de l'actualité, ça a été un moment assez fort de l'histoire récente de l'Ukraine, c'était le Maïdan. Est-ce qu'on peut... Maïdan, donc c'est cette place de Kiev qui a été le lieu de grandes manifestations, c'était 2004, hein, c'est ça ?
Alors, il y a un premier Maïdan en 2004, c'est ce qu'on appelle plutôt la Révolution Orange.
C'est ça.
Et ensuite, le Maïdan de 2013-2014, qu'on appelle Euromaïdan, Révolution de la Dignité, etc., etc. Juste une précision pour montrer quand même à quel point on est dans des zones d'Europe basiquement multiculturelles. Maïdan, c'est un mot turc.
Oui, non, même c'est même un mot arabe.
Ah, parce que alors moi j'en reste, j'ai découvert Maïdan Taksim, la place Taksim
à Istanbul. Maïdan, c'est aussi un mot arabe.
Et donc ça, c'est parce qu'il y a aussi cette influence-là en Ukraine, avec les Tatars qui dominaient la Crimée et toute une partie du sud de l'Ukraine, et justement les fameux Cosaques du XVIIe siècle combattaient pour la vraie foi, entre
contre
guillemets, contre les Tatars. Mais pour dire qu'on est vraiment dans une zone où il y avait tout, juifs, ukrainiens, russes, Tatars et...
Tatars islamisés qui ont été déportés par Staline.
Voilà, tout à fait.
Au Tatarstan.
Et alors, pour revenir au Maïdan, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effondrement de l'URSS en 91, c'est l'effondrement de l'État soviétique et puis de son habillage idéologique. Mais globalement, la nomenklatura qui était au pouvoir, elle est restée au pouvoir. Et ça, aussi bien en Russie qu'en Ukraine. La différence, alors dans les années 90, ça a été des années de misère pour tous les peuples de l'ex-URSS, et ça a été vraiment des années terribles.
Oui, ça a été l'effondrement, la mortalité qui part en flèche.
Ça veut dire que par exemple, c'était tous les gens qui touchaient un revenu de l'État, qui se sont retrouvés réduits, qui touchaient plus rien, et donc particulièrement les retraités. C'est-à-dire que dans les années 90, en Ukraine comme en Russie, c'était des des petits vieux qui faisaient la manche dans les stations de métro. Et ça, quand même, je veux dire, quand on l'a vu et vu régulièrement, c'est quelque chose qui reste, quoi. Et le problème, c'est donc, on a, à partir de cette nomenclatura qui a gardé les leviers de commande, la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui les oligarques. Et donc, c'est des gens, alors, soit directement issus de l'ancienne nomenclature soviétique, soit qui sont greffés dessus, qui vont purement et simplement piller les richesses du pays en s'appuyant sur, je dirais, sur leur carnet d'adresses. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, alors je suis pas du tout un chantre de la libre entreprise, mais on n'est pas du tout dans des gens qui vont développer des affaires. On est dans des gens qui vont tout simplement créer de la fortune en grattant tout ce qu'il y a de la valeur dans les restes de l'économie soviétique. C'est-à-dire que c'est par exemple vendre au prix du marché des hydrocarbures qui sont toujours distribués par l'État. Et par exemple, la politicienne ukrainienne Yulia Tymoshenko, là, celle qui avait des macarons, là, ouais. elle était surnommée la princesse du gaz. Ouais. L'Ukraine n'a jamais produit de gaz et à peine de pétrole. Elle a fait fortune en vendant du gaz qui venait de Russie. Il faut savoir que Vladimir Poutine, quant à lui, il faisait le même trafic de pétrole, mais pour le compte de la mairie de Saint-Pétersbourg dans les années 90. Mmh. Et qu'il a été choisi dans les hauts cercles de la nomenclatura parce qu'il faisait ça pour son boss mais il gardait pas d'argent pour lui, ce qui est peut-être la preuve qu'il était encore beaucoup plus bête que la moyenne. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, il y a ces oligarques qui constituent leur fortune en pillant le pays. La différence entre la Russie et l'Ukraine, c'est que en Russie, politiquement, c'est le chaos dans les années 90 avec un président Eltsine qui est alcoolique, qui grosso modo laisse tout le monde faire un peu ce qu'il veut dans son coin, excepté les Tchétchènes qui se prennent une première guerre là-dessus parce qu'ils avaient voulu leur indépendance. Par contre, en Ukraine, dans les années 90, on a des présidents qui essayent au contraire de serrer les boulons et à la fin des années 90, moi j'ai le souvenir d'avoir pris le train de Kharkov à Dnipropetrovsk, aujourd'hui Dnipro, et j'étais avec une famille russe qui arrivait de Moscou. On s'est fait contrôler nos papiers, donc on était en Ukraine, on s'est fait contrôler nos papiers 4 fois en à peu près 4 heures de train, et le père de famille russe s'est adressé à moi qui à l'époque vivait en Ukraine en disant « Diktatura, что ли ?» C'est la dictature ici ou quoi? Et donc à l'époque, la Russie passait pour libérale parce que le pouvoir central était très faible, alors qu'en Ukraine, main de fer. Et dans les années 2000, ça s'est inversé. C'est-à-dire que, suite à des contestations d'élections réellement manipulées en 2004, il y a eu la révolution orange, mais ça a jeté sur la place publique le fait que les clans oligarchiques s'étaient pas mis d'accord entre eux. Et donc, il y avait une véritable concurrence entre les clans oligarchiques pour savoir qui allait prendre la tête de l'État. Et c'est au même moment où Vladimir Poutine, lui, peu à peu, arrive d'une part à discipliner les gouverneurs de région qui au départ étaient élus et à partir de Poutine ils sont nommés, et à mettre au pas les oligarques avec des gens comme Khodorkovsky qui découvrent les joies de la villégiature aux frais de l'État en Sibérie. Et donc c'est à partir de là que les deux pays vont évoluer de façon totalement opposée au niveau politique. Et donc en Ukraine, les clans oligarchiques se mettent pas d'accord pour savoir qui doit avoir le pouvoir, et ça va permettre une mobilisation populaire au moment de la Révolution Orange, parce que les gens ont vraiment eu l'impression d'être pris pour des cons. Les élections, il y avait quand même des bus qui s'arrêtaient devant les bureaux de vote avec 60 personnes qui descendaient, qui faisaient la queue, qui votaient, qui remontaient dans le bus qui allait jusqu'au bureau de vote suivant, et à nouveau les mêmes votaient, etc. etc. Donc mobilisation populaire. Alors quand je dis mobilisation populaire, c'était quand même, on va dire plutôt, allez, on est entre nous, la petite bourgeoisie intellectuelle ou petit businessman, parce qu'à côté des grands oligarques, il y a aussi des gens qui ont essayé de créer leur boîte entre la corruption, entre ceci, cela. Et à partir de ce moment-là, l'Ukraine est rentrée dans une ère d'instabilité, mais il faut le reconnaître. Alors moi, je dirais pas, comme la plupart des commentateurs, que ça a été une ère de démocratie, mais je dirais que ça a été une ère de liberté relative. C'est-à-dire que l'emprise de l'État sur la société s'est desserrée en Ukraine au même moment où il se resserrait en Russie. Et clairement, ça a eu une importance. Je veux dire, c'est des petits détails, mais à la fin des années 90, un concert de rock en Ukraine, tout le monde était assis dans la salle de spectacle et il y avait des flics dans la salle de spectacle. Et dès que quelqu'un se levait pour danser, le flic faisait signe pour dire « rasseyez-vous ». C'était ça, et ça c'était des héritages de l'époque Brejnev, mais qui étaient toujours valables. Clairement, de ce côté-là, la société ukrainienne, elle s'est libérée à partir de la révolution orange de 2004, où les gens ont pris l'habitude de faire un petit peu plus ce qu'ils voulaient, même si la corruption restait très importante. Et donc, en 2013... le président Yanukovych, qui à la fois avait des sympathies du côté russe, mais qui en même temps était prêt à toutes les démagogies pour se faire réélire et qui avait promis l'association avec l'Union européenne et un régime sans visa pour les Ukrainiens. Et régime sans visa pour les Ukrainiens vers l'Union européenne, alors... ici, ça pourrait paraître un truc genre découvrir des pays étrangers. C'était pas du tout ça. L'idée, c'était le message subliminal, c'était vous pourrez aller bosser illégalement en Europe de l'Ouest et gagner de l'argent. Ouais. Ce qui était un bon coup de sa part. Sauf que cet accord d'association avec l'Union européenne, c'était un accord excessivement déséquilibré, c'est-à-dire qu'il fallait que l'Ukraine se mette aux normes européennes et ouvre son marché à l'Union européenne. Les autorités ukrainiennes avaient dit « bah oui, mais mettre notre appareil productif aux normes, ça va coûter des sous ». Et ils avaient demandé 20 milliards à l'Union européenne et l'Union européenne a dit « ah non, c'est pas possible ouais. ». Et c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine a dit « ben moi je mets 15 milliards sur la table ». Et c'est à prendre ou à laisser. Et donc du jour au lendemain, le président Yanukovych, qui était le perdant de la révolution Orange, qui entre-temps avait été réélu à la régulière tellement les gens avaient vu que les oranges valaient pas mieux que les autres et que c'était toujours la même corruption. Ben, ce président Yanukovych, virage sur l'aile, il signe avec Poutine et c'est là qu'il y a la contestation du Maïdan, qui est à l'origine une contestation plutôt étudiante et très pro-européenne avec tout ce que ça peut avoir de naïf et qui est assez rapidement réprimée violemment, c'est-à-dire qu'il y avait un campement d'étudiants sur la place un soir et la police anti-émeute arrive, commence à matraquer et tout ça sous les caméras de télévision. Et c'est bien que le lendemain, énorme manifestation et la contestation s'implante sur la place avec des gens, alors là c'est plus des étudiants, c'est plutôt des gens qui ont une bonne trentaine qui viennent et qui s'installent sur la place. Alors certains, c'est des petits patrons plutôt d'Ukraine centrale et de l'Ouest qui ont décidé de mettre leur entreprise en sommeil parce qu'ils estiment que c'est leur devoir civique de faire ça. Des fois c'est carrément des salariés qui sont envoyés par leur patron pour faire ça. Et du début décembre 2013 jusqu'à la fin janvier, le Maïdan est occupé par quelques milliers de personnes. De temps en temps, il y a des grosses manifestations, mais la plupart du temps, c'est quelques milliers de personnes. Et il y a des affrontements réguliers avec la police anti-émeute. Et petit à petit, les manifestants s'équipent. Ils bricolent des boucliers, ils portent des casques, un peu comme ça se faisait en 68 en France.
Hein. Comme ça s'est fait au Caire aussi, peu de temps avant.
Voilà. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment tout une fraction de quelques milliers de personnes qui prennent des habitudes militantes et politiques. Alors politique, le problème c'est que les seules forces politiques un peu articulées présentes sur le Maïdan, c'est l'extrême droite. et entre autres un groupe qui s'appelle Secteur Droit, qui se réclame de Bandera, et eux, bah, justement, ils ont eu des entraînements paramilitaires, etc. Donc ils savent apprendre aux autres manifestants à faire la chaîne, à se protéger, à réagir de façon groupée. Alors il y a aussi quelques groupes de gauche, alors qui sont obligés de naviguer parce que les types d'extrême droite, par exemple au début du Maïdan, il y avait un syndicat qui avait sa petite tente sur le Maïdan. Il y a des militants d'extrême droite qui sont arrivés, qui ont fait voler la tente parce qu'ils trouvaient qu'un syndicat c'était trop rouge pour eux. Oui. Quoi. Donc les groupes de gauche, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, en camouflant souvent leur appartenance ou disons en mettant beaucoup de rouge et bleu, les couleurs de l'Ukraine dans leur rouge, beaucoup de jaune et bleu dans leur rouge. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ce qui est considéré dans les milieux de gauche en Ukraine comme la principale, réussite politique, c'est la création parmi les unités d'autodéfense du Maïdan, qui était donc essentiellement encadrée par l'extrême droite, d'une unité d'autodéfense féminine, où il y avait un conglomérat de militantes, alors quelques-unes d'extrême droite, mais aussi un certain nombre qui étaient de gauche ou d'extrême gauche. Mmh. Voilà,
c'est important parce que on a associé justement à cet événement ici, du moins du côté de ce côté-ci de l'Europe, une très très grande importance qui est effective avec cet aspect qu'on a mis en avant de pro-européen contre le méchant ours soviétique. Effectivement, les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques aussi sont extrêmement importants. Qu'est-ce que ça va donner après ? C'est-à-dire qu'il y a eu ce Maïdan.
Il faut aller jusqu'au bout du Maïdan. C'est-à-dire que moi, je m'étais arrêté à fin janvier, où il y a un basculement au mois de février. C'est que à partir de la mi-février, il commence à y avoir des tirs à balles réelles sur le Maïdan, et en à peine une semaine, il y a une centaine de personnes qui sont tuées. Ouais. On pourrait dire exécutées, hein, parce que on a vu des images de manifestants essayant de se protéger des tirs derrière du mobilier urbain, et on voit que les tireurs ajustent, c'est visiblement des snipers, et que voilà, ils l'ont blessé à la jambe et ils continuent de tirer jusqu'à tuer la personne. Ouais. Et donc, finalement, on ne sait toujours pas d'ailleurs ce qui s'est passé, et il semblerait que dans l'appareil d'État ukrainien, tout le monde n'ait pas tiré entre guillemets, dans le même sens, et y compris la répression du Maïdan a toujours été légèrement à contre-temps. Alors, je ne suis pas du tout dans un plan complotiste à penser que, comme on peut le lire chez certains pro-russes aujourd'hui, qu'en fait, les morts du Maïdan auraient été tués par des pro-Maïdan qui voulaient accuser ceux d'en face. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il devait y avoir une véritable division au sein de l'appareil d'État ukrainien, et que certaines unités de répression ont eu des ordres qui n'étaient pas forcément en phase avec les ordres d'autres unités de répression. Et que du coup, ça a donné quelque chose de très pagailleux. Et donc, à la fin, Yanukovych s'en va. Se retrouve propulsé au pouvoir les forces d'opposition à Yanukovych, mais qui avaient assez peu de légitimité, même vis-à-vis des manifestants. Parce que, justement, c'était grosso modo les règles de tout ce mouvement orange qui avait déçu les Ukrainiens 10 ans plus tôt. Donc eux, ils cherchent des mesures à prendre rapidement pour se donner l'image de dirigeants qui savent où ils vont. La première décision qu'ils annoncent, c'est l'abrogation de la loi sur les langues qui avait été prise par Yanukovych et qui donnait le statut de langue officielle régionale à toute langue parlée localement par 10% de la population. Globalement, ça voulait dire qu'on donnait le statut de langue officielle régionale aux Russes dans les trois quarts des régions d'Ukraine. Donc, la première annonce du nouveau pouvoir après le départ de Yanukovych, c'est l'abrogation de cette loi. Dans le Donbass, qui est une région russophone, mais russophone, ça ne veut pas dire qu'on est russe. On peut parfaitement être ukrainien d'origine et être russophone, comme l'inverse est possible. Mais dans les régions russophones, c'est pris... Ils ont l'impression de se faire cracher à la figure. Et donc là, il y a un début de d'ébullition dans le Donbass contre le nouveau pouvoir de Kiev, avec cette idée de Kiev veut nous emmener là où on veut pas, etc., etc. parallèlement.
Pour rappeler que le Donbass, c'est la patrie de Stakhanov et c'est l'industrie lourde soviétique.
De l'époque soviétique, ouais. Et c'est aussi une zone, comment dire, où il y a eu des groupes de résistance pendant la période d'occupation nazie. Toi, c'est quelque chose de très fort symboliquement, voilà, à l'époque soviétique. Donc, le Donbass commence à s'agiter, mais y compris, c'était un journaliste du Monde qui la première fois qu'il avait été dans le Donbass, au moment où ça commençait à s'agiter, avait dit, en fait, dans le Donbass, ils font leur propre Maïdan contre le Maïdan de Kiev.
Ouais.
C'est-à-dire, y compris avec le même type de barricades, le même type d'occupation de l'espace, avec des gens pas forcément très nombreux, mais qui font beaucoup de bruit, avec des drapeaux, etc. Et ça, c'était bien vu. C'est-à-dire que globalement, il se passait la même chose, mais avec des signes politiques inversés. Parallèlement à ça, il y a l'annexion de la Crimée où la Russie s'appuie sur des groupes pro-russes en Crimée qui existaient depuis longtemps, qui étaient des groupes d'extrême droite, hein, qui étaient des groupes qui faisaient des ratonnades contre les Tatars, qui s'attaquaient aux homosexuels et qui s'attaquaient aussi aux militants de gauche ou d'extrême gauche.
Il n'y a pas eu l'incendie d'un centre...
Alors ça, c'est à Odessa. C'est un peu plus tard. Voilà. Mais donc, annexion de la Crimée, donc avec des groupes pro-russes qui sortent du bois, les petits hommes verts, c'est-à-dire des soldats russes sans aucun insigne, qui commencent à occuper des points stratégiques en refusant de dire d'où ils venaient, pourquoi. Et dans la foulée, un vote de l'Assemblée locale demandant le rattachement à la Russie, un référendum qui donne une grosse majorité pour le rattachement à la Russie, ce qui s'explique parce que la population de Crimée, depuis l'expulsion des Tatars, la déportation des Tatars par Staline, est très majoritairement russe. Donc c'est des gens qui se sentaient pas spécialement ukrainiens, ils étaient pas forcément anti-ukrainiens, mais s'ils avaient à choisir entre les deux, c'était quand même plutôt du côté de la Russie que ça penchait pour eux, quoi. Et donc, à ce moment-là, le Donbass est de plus en plus agité, mais c'est une agitation qui gagne toutes les régions est de l'Ukraine qui sont russophones. Et par exemple, à Kharkov, ville que je connais bien, Kharkiv, l'administration, la préfecture, on va dire, est occupée successivement par des pro-Maïdan, alors que le Maïdan a peu essaimé à Kharkov, qui sont chassés par des pro-russes qui vont organiser, ils font sortir les pro-Maïdan entre deux rangées de manifestants pro-russes en leur tapant dessus avec une foule énorme, plusieurs dizaines de milliers de personnes. On a les images, je connais la place, c'est une place énorme, qui crie « Rassia, Russie, Russie ». Mais ensuite, il y a un nouveau retour de balancier et c'est dans le cadre de cette période de heurts qui dure entre mois de mars, mois d'avril, début mai.
Là, on est en 2014.
Hein, est en 2014, qu'à Odessa, il y a des heurts en ville, entre une manifestation pro-russe et des manifestants pro-Maïdan. Les manifestants pro-russes se réfugient dans la maison des syndicats. Des manifestants pro-Maïdan balancent des cocktails Molotov. L'incendie prend et il y a plusieurs dizaines de morts dans la maison des syndicats. Sachant qu'évidemment, la police n'est pas intervenu pour séparer les deux camps, parce que, et ça c'est une des raisons des premiers succès des séparatistes, c'est que les flics eux-mêmes, ils savent pas ce qui va se passer demain. Donc les flics, avant d'intervenir, ils se demandent, oui, mais si je fais un truc et que demain on me reproche de l'avoir fait parce que c'est les uns ou les autres qui ont pris la main, moi, je veux pas de problème, donc je préfère ne pas intervenir. Même chose, les pompiers sont pas intervenus ou tardivement intervenus pour la même raison de désorganisation des pouvoirs publics. Et donc, il y a eu tout un moment comme ça où l'État en Ukraine a vraiment vacillé au printemps 2014. Et d'après ce qu'on sait aujourd'hui, c'est à ce moment-là que la Russie a poussé son avantage. Et on le sait pourquoi, parce que la première ville qui s'est déclarée séparatiste dans le Donbass, c'était Slaviansk, avec un type qui s'appelait Strelkov Girkin, qui était un un officier des services spéciaux russes officiellement en congé pour défendre ses compatriotes dans le Donbass. Sauf que depuis, le bonhomme, il s'est fâché avec Poutine et donc il a expliqué comment il a mené son opération. Il est parti avec 50 hommes, ils ont traversé la frontière de la Russie à l'Ukraine et ils ont pris la ville de Slaviansk. Mais c'est intéressant parce que la ville de Slaviansk, c'est, je crois, à peu près 150 000 habitants. Il a pris une ville de 150 000 habitants avec 50 hommes. Alors, des hommes sérieux, avec entraînement militaire. Mais ça veut quand même dire que localement, la police et même les unités de l'armée régulière ukrainienne qui étaient dans le coin étaient largement plus nombreuses. Et donc, ça veut dire que pour prendre une ville comme ça avec 150 hommes, ça veut dire qu'il y avait un certain soutien de la population.
Ouais. Donc, on voit bien là que c'est les prémices, en fait. C'est le tournant dont Poutine va, intelligemment, on peut le dire, à l'époque, il va profiter de ça. Il va bien voir que la situation lui est propice, donc il va avancer ses pions. 2014 jusqu'à 2022. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, on va pas faire de la grande géostratégie, mais alors, ce qu'on a plus ou moins retenu, c'est les discussions OTAN, Europe, Union soviétique.
Union soviétique, elle existe plus depuis longtemps.
Russie. Excuse-moi, Russie. Tu vois, c'est un.
Ne mélangeons pas les torchons et les soviets.
Ce que tu viens de nous expliquer là montre bien qu'il y a une montée en fait des tensions, il y a une montée donc de la société ukrainienne elle-même est minée de l'intérieur et que c'est sur cette société affaiblie que va jouer en fait la Russie pour tirer son épingle du jeu
en 2014.
Sorte.
Alors et y compris parce que l'armée ukrainienne en 2014 est totalement incapable de reprendre le Donbass, alors parce que elle est mauvaise techniquement en tant qu'armée, mais y compris parce que en se rapprochant du Donbass, moi j'étais en Ukraine en avril 2014 et j'ai vu en direct à la télé des mamies sortir de leur petite maison, se mettre devant un char en disant rentrez chez vous maudits, vous nous apportez la guerre. Donc ils n'étaient pas les bienvenus.
C'était des chars ukrainiens.
Des chars ukrainiens, ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est des volontaires et souvent des anciens du Maïdan, donc des gens qui avaient été dans ces unités d'autodéfense structurées par l'extrême droite, c'est des volontaires qui vont aller au front dans le Donbass et faire ce que l'armée ukrainienne n'était pas capable de faire. Des volontaires souvent payés par des oligarques. Et y compris, ça veut dire que parmi les oligarques ukrainiens, il y a eu en 2014 un basculement général. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'oligarque du côté séparatiste, du côté pro-russe. Y compris le principal oligarque du Donbass, Rinat Akhmiatov, qui à l'époque était encore riche. Son patrimoine était estimé à 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 10 fois moins. Bon, 2 milliards de dollars, le pauvre. C'est tout ce qui lui reste. Y compris lui, n'est pas passé du côté séparatiste et du côté pro-russe alors qu'il a l'essentiel de ses entreprises dans le Donbass. Et donc, on a des volontaires pro-russes dans le Donbass, soutenus de plus en plus par l'armée russe, même si elle dit qu'elle n'est pas là. On a des volontaires pro-Kiev de l'autre côté. Et dès que les combats se calment en 2015 avec les accords de Minsk, globalement, aujourd'hui on le sait, moi je ne le voyais pas avant, mais globalement on a préparé la suite. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne s'est totalement restructurée et on a vu qu'elle a tenu le choc en février 2022, ce sur quoi personne ne pariait, y compris du côté occidental. Et il faut savoir que les occidentaux au début ne voulaient pas filer d'armes aux Ukrainiens parce qu'ils pensaient que s'ils filaient des armes aux Ukrainiens fin février début mars, ces armes-là allaient se retrouver du côté russe tellement les Russes allaient avancer rapidement. Et du côté russe aussi, on a préparé la suite, alors visiblement moins efficacement que du côté ukrainien, sachant que du côté ukrainien, et ça c'est pas un secret, il y a eu une aide de différents pays de l'OTAN depuis 2014-2015.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. On a balayé comme ça quelques grandes périodes de l'histoire mouvementée de l'Ukraine et aussi d'une partie de la Russie. On espère qu'on vous a apporté quelques clés de compréhension. En tout cas, je pense que tu partages cet avis. On n'avait pas la prétention de donner l'explication ultime, mais en tout cas des éléments qui nous permettent de mieux comprendre la situation actuelle. Merci à toi, Eric, pour la clarté de ton exposé et puis toutes les choses que tu nous as apportées. Je crois que tu as publié quelques ouvrages. Alors, il y a un livre, il est toujours disponible, je crois.
Ils sont tous toujours disponibles.
Voilà. Histoire partagée, mémoire divisée, c'est chez quel éditeur ?
Aux éditions Antipode, et c'est un ouvrage que j'avais dirigé avec deux collègues, une collègue genevoise, Corinna Machère, et un collègue ukrainien, Andriy Portnov.
Et puis, un autre ouvrage, Le communisme tout de suite, les mouvements des communes en Ukraine soviétique, ça c'est plus historique, donc sur
la période de la guerre civile, 1919-1920.
D'accord, il est chez quel éditeur ?
Les Nuits Rouges,
un petit éditeur. Voilà, oui, on le connaît bien, oui, voilà. Les Nuits Rouges. Et tu animes aussi un site sur lequel on peut retrouver beaucoup d'articles. Tu peux nous donner l'adresse de ce site ou comment on peut...
Komuna.net, donc Komuna, c'est la commune en russe.
Avec un
K-O-2-M-U-N-A.net.
D'accord, sur lequel on peut retrouver beaucoup d'articles que tu as publiés. Il y a aussi, on peut trouver sur YouTube ou d'autres chaînes de vidéos, des interventions que tu as pu faire sur ce sujet de l'Ukraine.
Et une dernière chose concernant les livres, normalement cette année sortira aux éditions genevoises Entremonde, une édition commentée de la révolution inconnue de Voline, sur laquelle j'ai travaillé avec mon collègue et ami Pierre Boutonnet.
Et ce sera l'occasion de venir nous en parler sur cette antenne. Merci
à
toi.
Avec plaisir.
Minou, où est-ce qu'il est encore passé ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque 1er, 3e et 5e lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.